C'est simple. Si tu veux éviter les épiceries présentement, ben Chef Maison, c'est la solution. Au 438-872-9500, tu peux le rejoindre aussi sur sa page Facebook, Info Chef Maison. Puis oublie pas, le forfait familial, 5 jours à 75$. Chef Maison, la solution. Hey, t'es là, toi? Bienvenue dans la Josette du Barbu, numéro 170, mesdames et messieurs. Je commence ça tout de suite. On va parler un peu de gaming, parce que j'aime gamer. Puis ça fait longtemps que je t'en ai pas parlé. On vient d'apprendre la date de la sortie officielle de NHL 2022, qui sera le 2 octobre prochain, attends une minute, je veux juste voir si j'enregistre bien, bon, c'est parfait, qui sera le 2 octobre, le 12 octobre prochain, excuse-moi. Ce qui va être intéressant cette année, ben, c'est bien simple, puis il y a une nouvelle équipe dans la ligue, on est rendu à 32 équipes avec les Kraken de Seattle, fait que c'est toujours le fun. Quand il y a une équipe d'expansion qui arrive, comme l'année de Vegas aussi, de pouvoir rajouter cette équipe-là à ton jeu, c'est toujours plaisant. Puis j'ai hâte aussi, parce que là, j'ai hâte de voir quelle note qu'on va donner à Cole Caulfield. On va améliorer vu que le Canadien s'est rendu en finale de la Coupe Stanley, l'équipe devra être mieux notée. Des gars comme, exemple, comme Cole Caulfield devra avoir une meilleure note que présentement. Dans le jeu, il y a 79, là. Pour ceux qui jouent, vous comprenez la note. Pour les autres, ben là, c'est de 0 à 100. Mais il n'y a aucun joueur qui a 100. Les plus hauts que j'ai vus, je pense, c'est Connor McDavid à 97 et Wayne Gretzky dans les joueurs franchise à 97 aussi. Quoique là, on aurait pu mettre Gretzky à 99, là. Mon humble avis, ou 100, là, je veux dire. Des joueurs comme Gretzky le mieux, puis mettons Bobby Orr mérite un 100. Là. Mais Connor McDavid à 97, c'est très très rapide, là, je vous le dis. Donc c'est ça, Cole Caulfield avait 79. Je présume qu'il devrait être autour de 85. Les joueurs de franchise habituellement, tu vois, Carey Price est dans les 91 ou 92. Les joueurs de franchise habituellement sont au-dessus de 90. Le système de pointage est quand même assez bien fait. Mais j'ai hâte de voir au niveau du Canadien, là, justement, là, un gars comme Cole Caulfield, son pointage, puis un gars comme Nick Suzuki aussi, j'ai hâte de voir comment que ça va augmenter. Je pense que ça va être des gars autour de 85. Là. Ben, je présume. Là, 85, c'est des gars de deuxième trio, premier trio, mais pas des joueurs de franchise, là. On sait pas encore c'est qui va être sur le qui va être la face du jeu. Là, l'année passée, c'était Alexander Ovechkin. L'année d'avant, c'était Austin Matthews. Puis l'année d'avant ça, c'était Piqué Souben. Donc cette année, peut-être Carey Price, vu que c'est rendu en finale. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de gardien sur la façade du jeu. Peut-être un Carey. Ouais, je verrais peut-être un Carey Price. Ou peut-être. C'est sûr que Connor McDavid, avec la saison qu'il y a eu, la saison régulière, c'est 100 points en quoi? En 50 quelques matchs. Ben bref, j'ai bien hâte de voir ça. C'est toujours aussi un débat là, pour les gamers qui aiment le hockey. C'est toujours un débat à savoir qui va être sur le frontispice du du jeu. Là. J'irai avec Carey Price, moi, cette année. Là. Bon, là, j'entends déjà les haters, là, mais bon, ça nous dérange moins. On les laisse aller, ceux-là. Vous vous reconnaissez! En parlant de ça, déjà, Brady Tkachuk, le jeune Brady Tkachuk, disait qu'il ne signerait pas un contrat à long terme avec Ottawa parce qu'il n'était pas certain de des plans à long terme de l'équipe. Puis, je peux pas le blâmer. Tant que Mitch Melnyk va être là, c'est triste à dire, mais ce monsieur-là... est vraiment chiche, puis c'est pas comme ça que tu peux gérer une équipe d'hockey, là, si tu veux te rendre loin. J'ai-tu de l'air, les gars, les poches dans les yeux, ouais. Je m'en vais me faire couper les cheveux aujourd'hui chez mon ami Alex Le Barbier, à 2h45. Je m'en vais me faire trimmer la barbe et couper les cheveux. J'ai Alex Le Barbier à Sainte-Sophie, sur le boulevard Sainte-Sophie. Tu peux pas te tromper. Bon, hey là, je vais te reparler pour une dernière fois de Cyberpunk 2077. Bon, on va encore dans le gaming, ok? J'ai un autre jeu après, là. J'ai décidé de faire un petit bloc gaming. Là, on m'a dit rien à faire. J'ai convenu avec moi-même. Je suis unanime sur la question. Cyberpunk 2077, c'est un flop majeur. Moi, j'ai dépensé 90$ pour ce jeu-là. J'ai perdu 90$. J'ai arrêté hier ou avant-hier, j'ai arrêté de m'acharner sur ce jeu-là. C'est un très mauvais jeu. La conduite des véhicules, premièrement, conduire des véhicules dans ce jeu-là, c'est horrible. Ça n'a pas de bon sens. Comment je pourrais te dire ça, donc? Bon, je comparerai pas la conduite des véhicules à Cyberpunk avec Forza. Pour ceux qui connaissent Forza, c'est comme Gran Turismo, mais c'est la version Xbox. Le grand jeu de course sur PlayStation, ça a toujours été Gran Turismo. Et sur Xbox, c'est Forza. C'est des jeux similaires qui se ressemblent quand même beaucoup. C'est de grande qualité, des grands jeux de course. Donc, c'est sûr que je peux pas comparer Forza à ce qui se fait avec Cyberpunk au niveau de la conduite automobile. Je peux pas. Ça serait de mauvaise foi. Mais si je regarde un jeu comme GTA qui est fait par Rockstar, la conduite est très bien. Si je regarde un jeu comme Far Cry, la conduite est passable. C'est encore correct, OK? Particulièrement, la conduite des hélicoptères était très bien dans Far Cry. Le mouvement... ça avait bien, bien du bon sens. Un peu moins pour les camions, mais quand il s'agissait dans les airs, il n'y avait pas de problème. Mais Cyberpunk 2077, premièrement, la vue. T'as pas d'angle mort, puis la vue en général, c'est n'importe quoi. Tout ce que tu vois, c'est à peu près juste ton véhicule. Tu peux pas te donner d'autres angles. C'est la conduite est raboteuse. T'as l'impression de conduire un panier d'épicerie. C'est clairement ça. Il y a beaucoup de... Puis quand tu conduis, le visuel est horrible. C'est horrible. Puis ça, je te dis ça pour un jeu que ça a pris 8 ans à faire. Ça fait 8 ans qu'on nous hype Cyberpunk 2077. Moi, j'avais bien hâte à sa sortie. Ça a été reporté plusieurs fois. Mais là... T'as une minute, je suis en train de me gratter. Mais là, je comprends pourquoi ça a été reporté plusieurs fois. Là. Je comprends absolument pourquoi ça a été reporté plusieurs fois. Parce que le jeu, c'est un flop total. Puis quand, même quand ils l'ont sorti, il y a eu plein de glitches. Il y avait plein de défauts à ce jeu-là. Là, ils ont sorti des patchs pour pour améliorer le jeu. Patch 1.1 ou à peu près 2.2. Complètement horrible. Les patchs sont corrects, là, mais c'est comme mettre un plaster sur une plaie ouverte. Là. Tu sais, ça prendrait des points de suture, mais là, tu mets un plaster. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Donc, ce jeu-là, là, il... ça a été... Regarde. Puis après ça, l'émission, c'est... Tout arrive en même temps. J'aime pas le visuel. Dans la ville aussi, juste là, ils ont fait ça compliqué. Là. Juste prendre un adversaire, le saisir sans le tuer, c'est compliqué. Là. Ça n'a pas de bon sens. Puis tirer avec des armes, c'est horrible. Horrible. T'as pas de mire. Je sais pas comment dire. Hey, j'ai rarement vu ça. Un jeu aussi... Ils ont voulu faire quelque chose de bien, bien gros, mais ils se sont perdus en chemin, clairement. Je trouve ça plate pour eux autres, je trouve ça triste, parce que t'as travaillé quand même, ils ont travaillé 8 ans là-dessus. Mais ils ont voulu, je pense, prendre des bouchées trop grandes. Ils ont voulu aller dans le monde de Rockstar, mais eux, c'est des, j'ai l'impression, puis de Ubisoft. C'est des pros, là, Rockstar et Ubisoft. Ça fait longtemps qu'ils roulent leur boss. On peut pas s'aventurer là-dedans sans avoir des grandes pointures avec nous, tu sais. J'ai l'impression que c'est ça qui arrive avec la gang qui ont fait Cyberpunk. C'est vraiment un... C'est le flop. C'est un flop majeur. C'est le flop des flops. Je dirais des 10 dernières années, c'est un grand flop. Puis peut-être même de l'histoire du gaming, là, j'irais jusque-là. Là, il fait partie des plus grands flops de l'histoire du gaming. Ouais, absolument. S'il y a des amants, des amoureux de Cyberpunk 2077 à l'écoute, je suis désolé. Mais surtout, j'aimerais savoir votre opinion. Puis pourquoi vous aimez ce jeu-là, j'aimerais savoir vraiment. Puis si vous avez eu du plaisir à jouer à ce jeu-là, ça m'intéresse parce que j'aimerais ça retrouver ce même plaisir-là avec ce jeu-là. C'est peut-être moi qui comprends pas le sens du jeu, mais tout ce que je vois là, c'est complètement horrible. J'ai assez joué. C'est pour ça que je le dis aujourd'hui, j'ai assez joué au jeu pour te dire que ça a crissement pas de bon sens comme jeu. Pour avoir gamé en masse dans ma vie. Je comprends pas qu'après 8 ans qu'on sorte un jeu aussi mauvais. Puis je sais que les gars ils ont travaillé fort sur le jeu, mais Saint-Simonac, il y a en quelque part les gens qui ont travaillé sur le jeu se sont perdus en quelque part dans ce jeu-là. Pour moi, c'est vraiment un flop total. Après ça, en parlant de sortie d'un autre jeu, Far Cry 6 va sortir... voyons, ouais, je suis là. Far Cry 6 va sortir le 7 octobre. Un jeu, une franchise d'Ubisoft. Ubisoft, c'est une compagnie de Montréal. C'est pas parce qu'elle vient de Montréal, mais c'est mon jeu préféré, moi, Far Cry. J'avais bien aimé Far Cry 5. Beaucoup, en plus, qui se passait dans le Montana. T'essayais d'éliminer une secte. Après ça, il y avait eu une suite logique qui s'appelait Far Cry New Dawn. On aurait dû... c'était un 5... C'est pas un 6, ça, c'est 5.5, en fait. Mais j'ai bien aimé l'idée de ça. Puis j'ai bien l'impression que le 5.5 nous préparait au 6 dans la façon de crafter tes armes. Tu pouvais ajouter à tes armes, puis ça j'aimais bien bien ça, améliorer tes armes. Quand je dis crafter, là, craft your arm, je le dis en anglais là, mais ouais, tu fais du DIY avec tes armes, puis ça c'est bien intéressant. DIY, c'est do it yourself, hein? Donc, c'est ça. Et puis ça, je trouvais ça bien intéressant. Même chose pour les véhicules, pour les hélicoptères, etc. Là, on va s'en aller, Far Cry 6, dans un monde où il y a un dictateur. Le dictateur qui est joué par le comédien qui jouait dans Breaking Bad, qui avait les restaurants Los Poros, tu te rappelleras. Je me souviens. Puis son Gus, c'est ça, Gus, ouais. Donc, c'est lui qui fait le rôle principal. Ça se passe dans un environnement semi-ville, semi-jungle. Un peu genre Mexico City avec une campagne pas loin, là. Ça ressemble à ça. De ce que j'ai vu du gameplay, de ce que j'ai vu du jeu, ça semble extraordinaire. J'ai bien hâte de voir ça. Je suis bien excité de tout ça, là. Ouais, j'ai bien hâte de voir ça. Puis même, je me dis peut-être que je vais acheter la version Deluxe. Ou quelque chose de même, là. Ouais. Pour moi, ça vaut le coup dans le sens que c'est un jeu que je termine toujours, que j'aime jouer, que j'en profite énormément. C'est comme Red Dead Redemption 2 pour moi, au prix que j'ai payé. Ben, j'ai pas payé cher Red Dead, là, en fait. J'ai payé, il est en spécial, c'était ridicule, là. Mais j'ai beaucoup profité de ce jeu-là, puis j'ai eu beaucoup de plaisir. C'est le fun pour moi, tu sais, quand je me pogne un bon jeu, là, comme les Far Cry, les Red Dead Redemption, ce genre de jeu-là, des open world, le soir, je me réserve toute une petite heure pour jouer, ça me permet de décrocher de la vie de tous les jours. Pour moi, c'est comme un échappatoire, j'aime bien ça. Ouais, j'aime bien ça. Je m'en vais dans un autre monde, je me concentre là-dessus, je deviens ce personnage-là, tu sais, vraiment. Puis moi, ça me fait du bien. Tu sais, c'est en quelque part, pour moi, le gaming, c'est devenu bien sain dans ma vie. Ça, avant, je gamais, j'étais une bête. Je gamais tellement quand j'étais ado. Jeune adulte aussi. Je gamais trop. Maintenant, c'est sain comment je game, je trouve. Pour moi, ça devient un échappatoire, puis ça me fait du bien. Tu sais, une petite heure ici, une petite heure là. Je game pas pendant vraiment très longtemps, mais j'aime ça, là, me réserver le soir, là, c'est mon petit moment à moi, de paix, de bonheur. Je m'installe, je prends mon... Puis mes jeux, maintenant, je prends... Ben, j'ai toujours pris mon temps, mais encore plus aujourd'hui. Je prends mon temps pour faire mes jeux. J'aime ça les faire au complet, tranquillement, pas vite. Puis j'aime ça, cette idée-là. Moi, ça me plaît. Les open world, ça me permet de faire ça, de tout visiter, de tout faire ce qu'il y a à faire dans le jeu que les gens ont créé. C'est un beau moment de relaxation pour moi. C'est devenu ça, même si pendant le jeu, je relaxe pas, on s'entend, là, quand j'étais à Red Dead Redemption 2, puis qu'on affrontait plein d'ennemis, puis il y avait des shootings, puis de la dynamite, puis à voyons, c'est sûr que c'est pas un moment reposant. Mais... Mais j'aime ça. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça dans la vie. Donc, NHL, Cyberpunk, Far Cry. Ouais, fait que je me suis réabonné, imagine-toi donc, au podcast des Denis de Relais. Ben oui, j'ai bien de la misère dans la vie, moi. c'est le seul podcast... Je me suis abonné, je me suis désabonné. C'est ça le podcast que je suis pas capable de pas m'abonner. Il faut que je... Puis je pense que c'est ça qu'on veut quand on offre un Patreon. C'est ce qu'on veut comme sentiment, que les gens soient pas capables de pas être sur notre... Ils ont l'impression que quand ils sont pas abonnés, ils perdent quelque chose. T'sais. Puis c'est ça qui arrive avec... Là, ça faisait longtemps que j'étais pas abonné au Denis de Relais. Là, j'ai plein d'épisodes devant moi, puis je suis bien content. Bref, les Denis de Relais, Rince-Crème, leur podcast. Excusez. Voyons. Ils ont plein d'épisodes. C'est toujours original. Là, j'ai vu qu'il y avait des épisodes devant public. J'ai bien hâte de voir ça. Si un podcast... C'est sûr que c'est un podcast très à gauche. Dans le sens... c'est pas pour tout le monde. Là, c'est de l'absurde... fois 1000, là. tu... Tu sais, mettons, c'est pas comme Sans filtre où j'ai du temple. Tu iras pas chercher des choses là intéressantes. Je veux dire, t'apprendras pas grand-chose. Mais par exemple, au niveau artistique, ils font beaucoup de recherches. Ça, c'est bien intéressant. Ils explorent beaucoup. Ça aussi, c'est le fun. Moi, j'aime bien ça. Si t'aimes l'improvisation, tu vas aimer ça aussi. Puis tu vas aimer aussi le fait... L'exploration artistique aussi est bien intéressante. Si c'est le genre de choses qui te branche, tu vas aimer ça. Mais si à la base, t'aimes pas l'absurde, va pas là, là. C'est clair, là. C'est 100% absurde. Ou presque, tu sais. Même avec les invités. C'est le fun de les voir interagir avec les invités. J'aime bien ça. Bref, pour moi, c'est... au prochain Olivier, là, c'est le podcast de l'année. C'est celui des Denis Drolet. Pour moi, il fait pas de doute dans ma tête. Là. Ils ont trouvé leur place. Ça leur va tellement bien, le podcast. On voit comment ils sont bien à l'aise. Sont eux-mêmes. C'est toujours un plaisir de les écouter. Bref. Hey, je vais regarder combien j'ai fait de temps, là.
OK.
D'accord. Bon, on va voir un dernier sujet. Ouais. Hey, sais-tu qu'est-ce que je trouve dur? Là, je suis en train d'apprendre des textes par cœur pour les spectacles que j'aimerais beaucoup faire à travers les bibliothèques, là. J'ai pas pesé bien fort pour les campings, finalement. Parce que je me suis posé sérieusement la question, c'est-tu le meilleur environnement pour ce que moi je fais? Tu sais, je suis pas un humoriste, moi, là. Puis je suis pas un chanteur. Moi, ça prend... je raconte des histoires, fait que ça prend une certaine attention. Camping, est-ce que je peux aller chercher cette attention-là? Je suis pas certain. Tandis que dans les bibliothèques, je pense que c'est le meilleur endroit pour moi. Et puis des petites salles dans les bars, peut-être. Tu comprends? Les bibliothèques, je pense que c'est mon endroit. Je vais faire le tour, là, puis je vais t'en donner les nouvelles, mais je pense que ça devra être mon lieu principal pour faire mes comptes. Mais c'est ça, je suis en train d'apprendre mes textes par cœur, puis je pense que c'est ce que j'aime le moins faire dans tout ce que je fais, apprendre des textes par cœur. Je trouve ça difficile. Puis là, je pense aux comédiens qui ont des pages et des pages à apprendre. C'est un métier. Puis moi, j'ai bien de la misère. Là, je me cherche des trucs pour apprendre puis emmagasiner, tu sais. Ouais, j'ai bien de la misère à apprendre. Les textes par cœur, ça me ramène à la petite école, ça me ramène aux primaires. Comment que c'était difficile d'apprendre des textes par cœur pour aller les dire après, en avant. Ça me ramène à ce niveau-là, puis c'est déplaisant. Mais il faut que je combatte ça, puis il faut que j'aille au-delà de ça. Là, tu vois, je suis sur un texte, ça fait 2 semaines, puis asti, il rentre pas. Je suis pas encore capable de le... Je le vois devant moi. Je sais quel mot s'en vient, un à la suite de l'autre. Mais si j'enlève mes feuilles, c'est blackout total. Ouais, ça va falloir que je cherche, là. Ça va me prendre des trucs, parce que c'est difficile. Puis c'est pas de la mauvaise foi, puis c'est... Parce que, tu sais, on va se dire une chose. J'écris dans plusieurs webzines, dans des journaux. Là, c'est... Puis plus le Patreon, c'est mes revenus principaux, là, OK? Plus mes commanditaires, évidemment. Chance qu'ils sont là. Mais on va se le dire, si je veux passer un bel hiver, ça va me prendre des shows, là. Faut absolument que je fasse des shows, là, pour mettre du pain sur la table. Et puis c'est pour ça que j'apprends mes textes par cœur. C'est sûr que le livre, c'est un beau revenu, mais c'est pas en masse pour vivre, là, clairement. Là. Il y a mon livre aussi. Ben là, j'aimerais ça éventuellement peut-être refaire des t-shirts. Juste pas sûr s'il y a une demande au niveau des t-shirts. Là. Mais là, j'en ferai un différent. Je ferai pas le même t-shirt, en fait. J'en ferai un autre. Donc, bref, ben de la misère à apprendre mes textes par cœur. Ben difficile. Je parlais avec Hugo Giroux. Je me souviens, j'étais à TVA, puis je parlais avec Hugo Giroux. Puis il me disait... Je disais que j'avais 19 pages à apprendre par cœur, que je trouvais ça bien, bien difficile. Tu sais, lui... lui, il a fait Cyrano de Bergerac au complet. T'imagines-tu? c'est pas 19 pages, là, c'est peut-être 400 pages. Bon, bref, ben, lui, c'est un comédien de formation. Fait que, il a appris ce métier-là. Mais donc, c'est ça. Ben, c'est juste l'acharnement, puis à force de le dire, de répéter des textes, de l'apprendre. Puis quand t'apprends ton texte, ben, il y a des mots que tu coupes parce que ça fait pas... À l'écriture, ça fait du sens, mais de le verbaliser, ça... Quand tu le verbalises, le texte devient comme une musique. Ça se transforme. C'est plus... Oui, les mots restent, ou à peu près, mais il y a des choses qui se transforment quand tu le verbalises. Je trouve que ça devient comme une... Le texte devient une musique. Puis là, c'est de s'adapter à ça. Tu comprends? Là, je suis en train de pratiquer heureux comme un trisomique. Je vais le mettre dans mes textes. Je le mets dans mon spectacle. Parce que c'est un beau texte. C'est un feel... J'ai le goût de mettre des textes, des feel-good... comme un feel-good movie. Un texte qui fait du bien à l'âme. Je pense que cet hiver puis cet automne, ça serait le fun que je fasse ça, que je donne ça aux gens dans les bibliothèques, là, dans le spectacle. Je pense que les gens ont besoin de bon et de doux. On a eu un bout difficile là, avec la pandémie. On est en train d'arriver au bout de ça. Je pense que c'est important qu'on... je veux pas y aller dans le trop hard. J'essaie de prendre dans mes textes, les beaux textes qui font du bien à l'âme, qui t'amènent un petit sourire, puis heureux comme un trisomique et un de ceux-là. Dans heureux comme un trisomique, je me suis aperçu qu'il y a des mots que j'avais écrits qui sont difficiles à... Je dis chanter, mais c'est pas chanter, c'est... Quand tu le verbalises, c'est les liaisons. Parce que je veux que mon texte, quand je le dis, je veux pas sonner comme un robot. Tu sais, faut que ça soit le plus naturel possible. Faut que le spectateur, toi, là, t'aies l'impression que moi, là, je te récite pas un texte. C'est ça la majeure de cet apprentissage-là, c'est en verbalisant, le texte devient une musique. Mais la musique, là, à tes oreilles, il faut qu'elle soit douce, il faut que ça soit rythmé, rythmé d'une façon que ça coule du sol, puis que ça devient naturel. Mais si, il y a tout un travail à faire à travers ça. C'est de longues heures. j'ai coupé beaucoup dans... j'ai pas coupé beaucoup, mais il y a certaines liaisons que j'ai changées dans heureux comme un trisomique parce que ça faisait pas de sens. Les deux, trois premières lectures, je me disais, hey, ça va être... Je pourrais pas... Les deux, trois premières lectures, là, je me disais, ben, c'est un texte à l'écrit, je pourrais pas le verbaliser. Ça va être impossible, c'était ben trop rough. C'était bien trop carré dans sa façon de... Hey, tabarnouche, les liaisons, ça faisait dur. Pourtant, c'est un beau texte à l'écrit. Puis c'est écrit aussi très... Il n'y a pas grand-chose de littéraire là-dedans. Là, je veux dire, ça a été écrit d'un jet. C'est très... c'est écrit pour le monde. C'est très... comment je pourrais te dire? Ça, c'est que les mots de tous les jours, il n'y a rien de littéraire, là, absolument pas. Donc, de le verbaliser, ben là, faut que j'utilise un certain ton, tu comprends? C'est ça. Fait que... Et là, la difficulté, mais en même temps, c'est intéressant de travailler tout ça. Je t'en parle, là, puis ça me donne le goût d'aller travailler mon texte. Fait que j'ai bien fait d'en parler. Hey, sur ce, les amis, c'était la Josette du Barbu numéro 170. J'ai des petits yeux, hein? Tantôt, je m'en vais me faire couper la tournette. Je m'en vais me faire trimer la barbe. J'ai hâte en tabarnouche. Ben, je vais te dire, comme je disais dans le temps que je faisais du CB à la chute, et que mon surnom était Red Lobster. Et tu connais la ritournelle? Poupoute, ciao! Tu veux du swag? T'es sérieux à propos de ta barbe? Tu veux une coupe de cheveux dans le vent? Ben, j'ai le spot pour toi et tes enfants. Alex le Barbier. C'est facile, tu peux réserver en ligne alexlebarbier.ca ou tu peux appeler directement au 450-602-7022.